Place publique.
Le contournement ouest de la ville de Bienne, un tronçon autoroutier attendu depuis des décennies et qui pourrait voir le jour dans une quinzaine d'années. Mais le projet déclenche une vague d'opposition. Des habitants, mais aussi plusieurs associations en faveur de l'environnement dénoncent un projet hors de prix et nuisible. Comment prévenir le passage à l'acte pour des individus radicalisés? Surtout que cette semaine, l'attentat de Manchester a montré une nouvelle escalade dans l'horreur. En Suisse, la police veille et privilégie une approche sur mesure selon les cas. Heureusement, bien moins nombreux qu'en France ou en Grande-Bretagne. Et pour s'extraire de la dureté du quotidien ou pour mieux y faire face, la littérature peut être une solution. On va en parler en dernière partie d'émission à l'occasion des journées littéraires de Soleure qui se tiennent ce week-end.
Jusqu'à 19h, place publique. Gabriel Devecq.
Bonsoir à tous. C'est l'un des derniers chaînons manquants du réseau des routes nationales, le contournement ouest de la ville de Bienne. D'ici 2035, il pourrait permettre de relier Neuchâtel à Soleure sans interruption sur l'autoroute A5. De quoi désengorger le centre-ville de la cité zélandaise, pris d'assaut par le trafic de transit. Le contournement ouest est devisé à 2,2 milliards de francs pour quelques 7 km de bitume, principalement souterrain. Sauf que le projet suscite des oppositions. Parmi les plus farouches adversaires, on trouve un comité citoyen ou Axe Ouest, pas comme ça, voilà comment il est intitulé. On trouve aussi des associations nationales en faveur de l'environnement qui ont profité de la mise à l'enquête de ce projet pour faire opposition. Le délai courait jusqu'à mardi. Alors c'est l'occasion dans Place publique d'ouvrir le débat avec deux invités. Tout d'abord Daphné Rufnart, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes députée au Grand Conseil bernois pour le Parti des Verts, vous êtes membre de l'association donc Axe Ouest, pas comme ça. Et avec vous aussi, Joël Poli, entrepreneur biennois, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes vous-même engagé en faveur de ce projet de contournement. Alors on commence avec vous, Daphné Rufnart. Pourquoi s'opposer à ce projet de contournement qui doit permettre d'améliorer sensiblement la qualité de vie des biennois en libérant la ville du trafic de transit? Ça fait des décennies qu'on l'attend.
J'aimerais juste souligner qu'il n'y a pas un problème de trafic de transit, vu que les chiffres du canton démontrent qu'il y a seulement 20% de trafic qui transite la ville de Bienne. Plus de 80% du trafic est fait maison et du trafic interne ou d'agglomération. Donc nous avons un problème de trafic d'agglomération et pas un problème de trafic de transit. Et il faut adapter la solution au problème. Et donc c'est pas une autoroute avec des jonctions qui vont résoudre ce problème-là, nous devons chercher d'autres solutions qui réduisent le nombre de trafic engendré dans l'agglomération.
Donc ce contournement ouest ne changera rien à ces bouchons que les pendulaires et nos auditeurs connaissent tous les jours aux heures de pointe?
L'autoroute peut tout simplement réduire le problème de transit, vu que c'est une autoroute aussi au niveau national qui sera payée par la Confédération. Mais les 80% qui sont faits maison, il faut trouver d'autres solutions. La ville de Bienne a une répartition modale des transports la plus mauvaise de Suisse, quasiment. Donc aujourd'hui, la ville de Bienne devrait agir et motiver aux gens de prendre les transports en commun ou d'utiliser le vélo là où c'est possible. La ville de Bienne est complètement plate, ce serait complètement idéal d'utiliser le vélo pour les trajets qui sont plus courts. Et c'est là qu'il faut chercher des solutions et pas en amenant plus de trafic, en mettant des jonctions en plein cœur de la ville.
Joël Poli, vous l'entendez, hein, au lieu de régler le problème, on l'amplifierait, l'offre crée la demande, c'est un argument qu'on entend souvent du côté des opposants de la route. Il y aurait plus de trafic à Bienne, quoi qu'il arrive, si on construisait ce contournement, qu'est-ce que vous dites?
Non, c'est faux. Le trafic en ville de Bienne, certes, il y a du trafic interville et il y a du trafic de transit. Et même si le trafic de transit représente, selon ces études, pas la majorité du trafic, il est quand même trop important pour circuler en ville de Bienne. Parce qu'il faut pas oublier, du trafic de transit, ce sont des poids lourds, ce sont beaucoup de camions. Et ces camions, actuellement, ils passent au centre-ville, dans des zones 50, dans des zones 40. Donc, c'est pas viable pour la ville de Bienne. Il faut pas oublier qu'on a une grande place, une zone industrielle qui se situe tout à l'est de la ville, qui comporte ou travaille plus de 15 000 collaborateurs. Et puis, ça génère du trafic. Ces entreprises, elles doivent envoyer des camions, des voitures à Neuchâtel, à Berne, à Soleure, et on a besoin de ces routes de contournement. Et je reprends là ce qu'a dit M. Fer, le maire de la ville de Bienne. Il a dit que ces autoroutes sont utiles pour améliorer la qualité de vie, pour protéger l'environnement et pour promouvoir l'essor économique. Donc, ce contournement ouest est indispensable à la ville de Bienne.
Daphné Rufnacht, du coup, comment faire autrement, hein? On sent bien l'importance que pourrait avoir ce contournement si on écoute M. Paoli. Quelle alternative, hein? Votre comité, on le rappelle, c'est Axe Ouest, pas comme ça. Alors, il faudrait faire comment? Vous avez parlé de privilégier la mobilité douce, mais en même temps, pour l'industrie, ce n'est pas forcément une solution.
Il faut privilégier la mobilité douce, ça c'est un premier pas, mais si vous cherchez des solutions, comme M. Paoli l'a dit avant, pour le trafic de transit, alors on peut complètement renoncer aux jonctions de Bienne-Centre et au Faubourg du Lac qui ont un impact énorme dans la ville de Bienne. Ce sont deux jonctions en plein cœur de la ville de Bienne. Donc pour des solutions de trafic de transit, nous n'avons pas besoin de jonctions qui sont très très nuisantes pour la ville de Bienne. Ben, ça serait une solution. Ça coûterait beaucoup, beaucoup moins. Le canton de Berne a calculé que ça coûterait 400 millions de francs en moins à la Confédération, au canton et à la ville. Donc je pense que c'est des arguments aussi que l'économie devrait être sensible si on pourrait réduire les coûts qui sont énormes. 2 milliards pour quelques kilomètres, vous l'avez mentionné au début dans l'introduction, ça fera le kilomètre d'autoroute le plus cher jamais construit en Suisse. Comparé à la Transuranne qui a coûté 6,5 milliards pour 85 kilomètres, l'on sera pour 2-3 kilomètres à 2 milliards. C'est juste pas comparable et c'est des coûts qu'on pourrait investir ailleurs.
Joël Pauly, vous êtes sensible à cet argument économique.
Oui, non mais écoutez, moi je veux dire à un moment donné, aussi Mme Rufenard, il faut arrêter avec ces jonctions. Je rappelle, c'est la ville de Bienne qui a voulu ces jonctions au centre. C'est la ville de Bienne. Et puis, maintenant ces jonctions sont faites, elles sont dans le projet général qui est approuvé par le Conseil fédéral. Et puis, on ne peut pas revenir comme ça en arrière. Déjà, les autorités du canton de Berne et le Conseil fédéral ont très justement dit le projet, il a à prendre ou à laisser. Il y a eu assez d'études pendant des dizaines d'années qui ont été faites avec ou sans jonction, avec une jonction complète, etc. Maintenant, on a une jonction qui est optimale. Elle a été étudiée, elle a été validée par des ingénieurs, par des bureaux d'études. Et puis, si on veut améliorer la qualité de vie au centre Bienne, on est obligé d'avoir une jonction complète, obligé. Sinon, vous réduisez aucun trafic, personne ne prend autoroute. Donc, à un moment donné, on ne peut pas venir tous les 10 ans en disant « le projet n'est pas bon, le projet, il faut revoir cette solution ». Il faut arrêter. Je rappelle que c'est la ville de Bienne qui a demandé ces jonctions. Donc maintenant, la Confédération les a approuvées et elles devront être réalisées.
Daphné Rufnacht.
On peut dire que c'est la ville de Bienne. Oui, c'est les autorités viennoises et le canton qui ont demandé ces jonctions. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 membres du comité Axe Ouest, pas comme ça. Samedi dernier, il y avait une démonstration avec 1200 personnes qui sont venues manifester contre ce projet gigantesque des années 60. Qui ne veulent pas de ces deux jonctions. Donc, la population n'a jamais pu se prononcer. On ne peut pas dire que c'est les Biennois, c'est les autorités biennoises qui ont proposé ces jonctions, mais la population n'a pas
Oui, mais les autorités représentent le peuple, Mme Rufnacht. Et puis, je rappelle qu'il y a eu un projet, un groupe de travail suite au premier projet général du Conseil fédéral qui a été mené avec toutes les communes concernées, dont M. Stöckli, le maire socialiste de la ville de Bienne, en était le président, et qui sont arrivés à ce compromis-là. Qui était le bon compromis pour la région. Donc on ne peut pas venir systématiquement maintenant, tous les 10 ans, dire qu'il faut réétudier. À un moment donné, on a pris une décision et on doit y aller. Et il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, c'est plus viable en ville de Bienne. Et puis proposer des mesures pour la mobilité douce, je suis désolé, ça ne réduira pas le trafic en ville de Bienne. Je rappelle que vous avez plus de 15 000 personnes qui travaillent dans une zone industrielle qui se développe. Hein, on a des nouvelles industries qui sont en train de construire là. C'est positif pour la ville, c'est positif pour les résidents de la ville de Bienne. Donc, on ne peut pas imposer ce trafic.
Daphné Rufnacht, vous voulez finalement obtenir quoi avec ces oppositions donc, qui ont été déposées? Il y a ces démonstrations, vous venez d'y faire allusion en ville avec ces 1200 cyclistes qui ont défilé. Vous attendez quoi au final? C'est que la population se prononce et à ce moment-là, vous accepteriez le verdict des urnes?
Mais on parle tout simplement toujours que c'est un projet pour la population biennoise. Alors, elle devrait au moins pouvoir se prononcer. Si ce n'est pas un projet national, puis si c'est un projet régional, il faudrait au moins demander l'avis de la population. Et là, je ne suis pas certaine qu'il y aura une majorité qui soutiendrait un projet gigantesque en plein qui défigure la ville de Bienne.
Joël Pauly, vous êtes prêt à
faire non, mais écoutez, il faut arrêter déjà. Si la population devait se prononcer à Bienne, ce n'est pas parce que vous avez 1500 membres que la majorité des Biennois ne soutiendrait pas le projet. Puis à un moment donné, on est là dans un projet de la Confédération et on n'a pas la population de toutes les communes avoisinantes n'ont pas à se prononcer sur des projets de la Confédération. On finit plus. Donc maintenant, il y a eu des choses qui ont été décidées. Je rappelle que le contournement Les bases du contournement ont déjà été décidées en 1960 par l'Assemblée fédérale qui a désigné que le contournement de Vienne devait passer par la Neuville. Et puis, on doit le réaliser maintenant. Donc, ça va se faire et il y a eu assez d'études qui ont été faites pour prouver que la qualité de vie des Viennois après ce contournement, avec les jonctions comme c'est prévu, sera bien meilleure.
Et malgré tout, il y a des oppositions qui seront traitées et on verra bien sûr quel sort leur sera réservé. Et puis on verra aussi si les opposants arrivent à créer une votation sur ce sujet. En tout cas, le débat n'est pas clos, on l'a bien compris. On vous remercie en tout cas de l'avoir continué, poursuivi sur Place Publique. Daphné Ruffnard, Joël Poli, on se retrouvera bientôt, c'est promis. On vous souhaite une bonne soirée.
Gabriel Devecq.
Cette semaine a été marquée de façon tragique par l'attentat terroriste de Manchester. 22 personnes, dont des enfants, sont mortes. Des dizaines d'autres ont été blessées. Après qu'un jeune homme de 23 ans s'est fait exploser à la sortie d'un concert. De parents libyens, Salman Abedi se serait radicalisé après un voyage en Libye et en Syrie. Comment prévenir de tels passages à l'acte pour ces centaines de jeunes djihadistes radicalisés de retour de Syrie ou d'Irak? La question qui se pose principalement pour la France et la Grande-Bretagne. Mais la Suisse n'est pas à l'abri, elle qui compte quelques 90 profils jugés dangereux. Alors comment déradicaliser les jeunes extrémistes? Une conférence débat sur ce thème est prévue jeudi prochain, 1er juin à 18h à l'Université de Neuchâtel, en présence du sociologue français Gérald Bronner, spécialiste du phénomène, mais aussi en présence de Pascal Luthi, commandant de la police neuchâteloise. La police neuchâteloise dont les experts se méfient des notions trop simplistes, comme peut l'être la déradicalisation. Je vous propose d'écouter à ce propos Gilles Guignard, il est commissaire précisément de la police neuchâteloise, en charge des questions liées à la radicalisation notamment.
Il faut vraiment là s'adapter aux pays concernés. Je pense que la France, comme d'autres pays, sont confrontés à une vague de gens qui sont partis, donc aussi à des gens qui reviennent. Pour la Suisse, le constat il est différent. Moi, j'aime pas trop ce mot de déradicalisation parce que, si vous me permettez une pointe d'humour, ça me fait penser à dératisation. Donc, comme si on pouvait trouver un remède global, une panacée pour finalement guérir ces gens qui reviennent, alors que les motifs de départ dans ces pays sont tellement divers que je pense que quand les gens reviennent, s'ils ont l'occasion de revenir, eh bien ça appelle aussi à des prises en charge vraiment individuelles.
Et justement en Suisse ou dans le canton de Neuchâtel, quelles sont les mesures que vous privilégiez, du coup, non pas pour déradicaliser, on l'a bien senti, c'est pas un mot que vous appréciez, mais pour par exemple désendoctriner, désembrigader?
Écoutez, je crois savoir que le chiffre est très bas de personnes qui sont revenues en Suisse. Et puis là, on parle pas vraiment de déradicalisation, mais plutôt de réhabilitation ou de réintégration. Et puis là, je sais que dans d'autres cantons, c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire. Mais comme ça se ferait ici aussi dans le canton de Neuchâtel, si on devait y être confronté. Donc c'est un travail en réseau qui implique différentes administrations, les autorités chargées de l'exécution des peines, mais aussi les services sociaux. Il s'agit de prévoir un plan de désendettement, de les réorienter sur le marché du travail. Ça implique aussi, évidemment, les polices. Ça pourrait aussi impliquer des associations musulmanes, toute une catégorie, je dirais, d'intervenants sociaux qui vont travailler justement à la réhabilitation de la personne. Pour certains cas, j'imagine qu'il y a quand même un suivi psychologique qui doit être entrepris. Alors, est-ce que c'est une thérapie individuelle, en famille, en groupe? Donc, je crois que la réponse, elle est là, finalement. C'est dans une prise en charge pluridisciplinaire large.
Mais à partir de quel stade on peut parler de radicalisation? Vous parlez de retour de Syrie, par exemple, mais est-ce que tout simplement une implication sur des sites douteux sur Internet suffirait déjà à enclencher une stratégie de remise sur le droit chemin?
Oui, tout à fait. Alors là, c'est là que les polices cantonales s'inscrivent dans cette démarche, le service de renseignement de la Confédération aussi. Donc on est vraiment, dans des tâches de prévention. Donc il s'agit de comprendre pour nous la radicalisation, pour la prévenir, donc identifier typiquement les jeunes ou les personnes qui seraient sur le mauvais chemin. Donc ça permet de s'entretenir avec ces personnes. Quand c'est plus grave, de les dénoncer aux autorités pénales. Et puis ce travail peut se faire aussi éventuellement avec des associations musulmanes ou des organisations qui sont, chargées de travailler au bien vivre ensemble. Donc oui, c'est une tâche de détection pour nous des menaces, mais je dirais que pour l'instant, ça, en tout cas en ce qui concerne le canton de Neuchâtel, ça se passe plutôt bien.
À voir ce qui se passe en France, où le problème se pose, vous l'avez dit, en termes plus aigus, on sent que la réponse est extrêmement difficile à apporter. C'est un phénomène complexe qui touche des profils d'individus très variés, souvent même instruits et pas seulement en marge. C'est aussi ce que vous constatez?
Alors, je le constate de ce que je peux en lire dans les médias. Effectivement, la France, l'Angleterre ou d'autres pays sont confrontés vraiment à un problème de masse. Donc, moi, je crois pas trop à la solution du centre de désendoctrinement, de désembrigadement. Je pense plutôt à des solutions individuelles. Mais effectivement, ça coûte cher, ça prend du temps. Il faut travailler avec plusieurs partenaires. On parle de dispositifs socio-éducatifs, donc c'est vraiment un gros travail. En Suisse, pour l'instant, on a la chance d'avoir quelques cas et là, de pouvoir mettre toute l'énergie sur ces cas individuels. Maintenant, quand c'est un problème de masse, ça doit être plus difficile.
Et sur la nature, hein, c'est la question que je vous posais, la nature de ces profils d'individus qui ne sont pas forcément des gens paumés en marge de la société, mais qui sont aussi parfois des gens tout à fait réfléchis, qui pensent agir rationnellement, même très instruits.
Tout à fait. Donc, c'est aussi peut-être l'intérêt de cette conférence jeudi prochain, parce que je crois savoir que l'idée de cette conférence, c'est aussi de défaire un certain nombre d'idées reçues sur ces profils, puis de montrer que voilà, c'est un peu simple aujourd'hui, vu la médiatisation de ces cas de cri au danger et puis à la menace générale, alors que peut-être sur certains de ces profils, je dirais, il s'agit d'avoir une analyse vraiment vraiment plus fine.
Gilles Guignard, commissaire de la police neuchâteloise, en charge notamment des questions liées à la radicalisation. À ne pas manquer cette conférence débat intitulée « Radicalisation et déradicalisation ». C'est jeudi prochain, 1er juin, à 18h, au bâtiment principal de l'Université de Neuchâtel.
Place publique.
C'est le rendez-vous de l'année pour la littérature suisse, les journées littéraires de Soleur. Elles ont débuté aujourd'hui et se tiennent jusqu'à dimanche. Près de 70 auteurs et auteurs venant des quatre coins du pays et même d'ailleurs seront présents. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que du côté francophone, les écrivains de la région sont en vue. La jeune franco-coréenne installée en Ajoie, Elisa Choua du Sapin, et le neuchâtelois Jean-Bernard Vuillem recevront respectivement les prix Renfer et Alpha, décernés par la commission intercantonale de littérature des cantons de Berne et du Jura. Sur place aussi, l'auteure neuchâteloise Antoinette Richner, lauréate l'an dernier du prix suisse de littérature pour son roman Le Prix, et qui a depuis publié Devenir prêt et Arlette. Dans Place publique, on en profite pour mesurer la bonne santé donc, du vivier littéraire de la région, mais aussi on en profite pour questionner le rôle de l'écrivain de nos jours. Avec nos deux invités, justement Antoinette Richner, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints par téléphone. Vous êtes en direct de Soleur où vous venez de lire des extraits de votre prose en public.
Avec absolument, nous, ça s'est bien passé.
Eh bien, on vous posera la question justement. Avec nous également Christine Salvadé, chef du service jurassien de la culture. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous avoir rejoints. Antoinette Richner, alors un mot sur ce qui vient de se passer. Apparemment, ça s'est bien passé. En quoi c'est important pour vous de participer à ces journées de Soleur? C'est notamment l'occasion, on imagine, de mesurer votre cote auprès d'un public exigeant?
Il y a un peu cette question de la cote. Oui, c'est une gratification personnelle, évidemment, parce que les journées de Soleur sont dotées, c'est un festival qui est doté d'une commission de programmation qui a un regard assez aigu, assez aiguisé sur le champ littéraire suisse et international. Donc évidemment, il y a une certaine fierté. Mais c'est aussi l'occasion, je pense, de rencontrer le public vraiment dans de bonnes conditions d'écoute. Je trouve qu'il y a un bon focus qui est offert sur les auteurs au public. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer mes pairs, mes confrères ici d'autres régions linguistiques de Suisse. Là, je pense qu'au niveau des rencontres inter-suisses, c'est vraiment le rendez-vous majeur dans l'année solaire.
Ce rendez-vous est aussi l'occasion, on vient de le dire, de distinguer deux écrivains résidents dans la région. Christine Salvadé, qu'est-ce que Elisa Choua du Sapin ou encore Jean-Bernard Vuillem ou encore Antoinette Richner apportent à la culture de l'arc jurassien?
Alors écoutez, je pense que la place de l'écrivain dans la société aujourd'hui n'est plus à démontrer et puis elle est plus actuelle que jamais. Hein. Je pense que la place de l'écrivain, elle est prépondérante, essentielle. On l'a vu par l'histoire dans le Jura, puisque l'identité jurassienne s'est beaucoup créée à travers et grâce le talent, grâce au talent des écrivains jurassiens, reste très vivante actuellement et les exemples que vous citez en sont la preuve. Je dirais que par exemple, Antoinette Richner et Elisa Choua du Sapin ont eu la chance de passer par l'Institut littéraire suisse à Bienne, et qui est peut-être une des clés, je dirais, de ce succès actuel cette force et cette vivacité du vivier littéraire actuel dans l'arc jurassien.
Antoine Trichner, est-ce qu'on peut dire pour autant que l'arc jurassien est une région propice à la création littéraire, ou est-ce que c'est l'univers, l'environnement institutionnel qui est plutôt performant, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans l'air qu'on respire qui fait qu'il y a plus d'écrivains ici qu'ailleurs ?
Je ne sais pas s'il y a plus d'écrivains ici qu'ailleurs, mais en tout cas, je trouve que la communauté des écrivains de la région est une communauté où ça se passe bien, où je ressens beaucoup de bienveillance et de curiosité réciproque. Pas vraiment de rivalité, enfin, j'ai l'impression que c'est un monde où chacun a sa place, où il y a du respect mutuel et c'est agréable à vivre, quoi.
Christine Salvadel. Oui.
Je voulais rajouter qu'effectivement, les journées littéraires de Soleure sont peut-être la seule manifestation suisse où les quatre langues nationales se côtoient à travers leurs écrivains et leurs éditeurs et également leur public. Et je pense que ça, c'est très important, notamment à travers justement le débat qui nous anime actuellement sur l'enseignement des langues nationales. Là, on a vraiment une cohésion et c'est une prouesse de réunir des écrivains qui ne s'expriment pas dans la même langue et qui ont pourtant beaucoup d'échanges et beaucoup d'expériences à partager.
Je
rejoins tout à fait là-dessus. Je trouve que c'est rare, en fait, qu'on ait l'occasion de se voir entre auteurs des régions linguistiques et que c'est un peu l'occasion ou jamais, vu que ça se passe de manière très conviviale ici. D'habitude, on est quand même plus chacun dans nos réseaux. Bon, pour les Suisses romands, il y a un réseau d'auteurs suisses romands, mais il y a aussi un réseau francophone mondial dans lequel j'ai des contacts aussi. Mais là, finalement, je trouve que la porte à côté qui est la Suisse allemande ou la porte à côté qui est le Tessin, c'est des fois paradoxalement plus difficile d'échanger. Et là, c'est vraiment une bonne place.
On va parler peut-être plus en détail de ce rôle des écrivains. Christine Salvadé, vous parliez tout à l'heure de l'histoire jurassienne. Les écrivains ont joué un rôle important, par exemple, dans la construction identitaire de ce nouveau canton, de cette région. Vous, qu'est-ce que vous attendez en retour de ces écrivains que vous soutenez, que vous récompensez, en leur attribuant des prix de plusieurs milliers de francs ? C'est qu'ils restent fidèles à leurs racines, d'une certaine manière, ou bien vous préférez qu'ils soient complètement libres d'aller n'importe où ?
Écoutez, alors je pense que ça ne se pose pas en ces termes. Si on donne les conditions cadres à un écrivain de créer, d'imaginer et de nous faire part de son talent, c'est justement pour qu'il nous secoue, pour qu'il malmène les idées reçues ou les faits établis, et tout ça avec leur talent, leur sensibilité, leur vécu, leur talent. Ça, c'est vraiment, je pense, ce qui est important chez un écrivain. Un des exemples les plus fameux qu'on puisse citer, c'est le roman Mars de Fritz Zorn, hein, dans le jeune Zurichois de la Golden Kiste, qui a remis en question ce pays ennuyeux qu'était la Suisse à la fin des années 70. Ça passe pas toujours bien, c'est vrai, mais c'est ce qu'on demande à nos écrivains, en fait, c'est d'être un peu l'aiguillon et je dirais les questionneurs, les interrogateurs de cette société dans laquelle on vit.
Antoine Trichner, c'est aussi comme ça que vous concevez votre rôle de malmener nos certitudes, pour reprendre les mots de Christine Salvadé, de remettre en question le fonctionnement de notre société, de nous ébranler. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous voyez votre rôle ?
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est important de parler des œuvres, entre autres les livres, qui sont quand même des biens immatériels qui sont rendus en fait accessibles à la société. Mais ça me tiendrait aussi à cœur de rappeler qu'il existe bien d'autres activités dans le métier d'auteur. Par exemple, moi, mais c'est le cas d'autres, beaucoup d'autres auteurs, je fais des interventions au milieu scolaire, je suis intervenue aussi dans des foyers de personnes âgées, dans l'art jurassien, ou dans des prisons, ou dans des centres de réfugiés, dans des théâtres, enfin, autant de lieux où j'ai par exemple animé des ateliers d'écriture, et je pense que l'écriture, c'est vraiment un instrument qui permet de mieux se connaître soi-même au titre d'individu, et de mieux connaître aussi la communauté dans laquelle on cherche sa place. Donc oui, bien sûr, la remettre en question, mais peut-être aussi lui rendre hommage ou simplement la questionner, la raconter, ça, l'écriture le permet. Et je crois que, moi j'ai l'impression, en tout cas quand je fais ces interventions-là, que je rends un service à la société.
On a l'impression que la littérature peut aussi servir d'échappatoire. Or, les journées de Soleure ne passent pas sous silence le contexte actuel dramatique, parce que les auteurs en parlent. On parle de la guerre, des migrations, de la montée des nationalismes, de l'exclusion sociale. On pourrait noter encore l'urgence climatique. Est-ce que l'écrivain peut s'abstraire encore de l'actualité? Est-ce qu'il peut encore s'en émanciper? Est-ce qu'il doit s'en émanciper aussi? Ou au contraire, il a le devoir, dans ces périodes délicates, d'oser des thèmes difficile.
C'est effectivement une grosse, grosse question, donc ça va être difficile de la résumer, mais personnellement, je me sens assez ambivalente, parce que d'un côté, je ressens le besoin, la nécessité d'être vraiment à l'écoute du monde, de ce qui se passe. De l'autre, j'ai l'impression que pour écrire, ça demande quand même des moments de retrait pour pouvoir me centrer et puis produire une écriture qui soit vraiment la mienne. Et puis aussi, vis-à-vis des lecteurs, j'ai l'impression qu'il faut faire très attention, vu qu'on est dans un contexte où les lecteurs sont passablement saturés d'actualité, donc il faut faire attention à l'approche, j'ai l'impression.
Oui, je crois qu'il faut pas investir l'écrivain à chaque fois de cette mission de changer le monde. Hein, et je pense qu'il ne peut pas s'en abstraire, il ne peut pas s'abstraire de son époque, et même si effectivement les conditions de création sont parfois, je dirais, plus agréables et plus inspirantes quand on est seul que quand on est plongé dans la société, je pense que chaque écrivain est un témoin de son époque d'une manière ou d'une autre, même si il ne parle que de lui-même à la fois.
Vous êtes d'accord avec cette conclusion, Antoinette Richner?
Ben, j'avais quelques lignes de mon livre « Devenir prêt » là, qui vous pourrait entrer en écho à cette question. Si vous...
Et ce sera le mot de la fin, ce sera vos lignes. On vous écoute, Antoinette Richner.
Juste sous la fenêtre, une herbe d'un vert pleinement allumée, sa longue face fluorescente, isolant sur la toile d'imbrication obscure. Reviennent subitement ces mots de l'écrivaine Samar Yazbek, entendue à Montricher dimanche après-midi. Si je retourne en Syrie, on m'égorge. Je ne suis pas la bienvenue là-bas. La souffrance qu'on entendait dans sa voix, comme si pareille menace pouvait ne pas représenter une raison légitime pour s'exiler. Épouvante, compassion, sentiment d'impuissance, violent rappel aussi de nos privilèges, sans toutefois céder sous la violence du choc infligé à la conscience, à la trompeuse facilité d'établir des hiérarchies rédhibitoires de valeurs, de densité ou de justification entre les écritures natives du désastre et celles de la paix, tout cela brassé dans l'esprit en quelques secondes.
Antoinette Richner, merci. Merci d'avoir été avec nous. Vous étiez en direct des journées de Soleure, où vous avez fait lecture de « Devenir prêt », cet ouvrage dont vous venez de tirer l'extrait qu'on vient d'entendre. On vous souhaite bien sûr une bonne soirée sur place, un excellent week-end. Et on se réjouit de vous lire aussi, on encourage les auditeurs à le faire. Christine Salvadet, merci aussi d'avoir pris le temps de nous rejoindre.
Merci.
Et c'est tout pour Place Publique. Merci à nos invités, merci à Yannick Frossard pour la réalisation. Retrouvez cette émission en tout temps sur nos sites internet RJB, RTN et RFJ.ch, mais aussi bien entendu en podcast sur nos applications. À la semaine prochaine.
Place Publique.